il est 8h.
Il y a des écoles qui accueillent jusqu'à 15 enfants, il y en a qui n'en accueillent que 5 par classe, et on ne comprend pas toujours pourquoi. Ça laisse les gens un peu perplexes et un peu en colère maintenant.
Et ils craignaient de remettre leurs enfants à l'école. Les parents d'élèves sont visiblement rassurés. Ils mettent désormais la pression pour faire accueillir plus de monde. Des menus présentés sans contact, 1 mètre d'écart entre les tables. Les restaurateurs sont fixés sur le protocole sanitaire pour la réouverture. Europe 1 vous le révèle ce matin. Dans ce journal également, quand déconfinement rime avec surendettement pour de plus en plus de Français.
J'ai fait le mauvais calcul de dire je fais autant de salaire avec mes heures supplémentaires, je pouvais m'en sortir comme ça. Et il y a eu ce confinement qui commence à toucher moins et puis vous enfoncez encore plus quoi.
L'application Stop Covid, examinée au Parlement cet après-midi, on l'a testée en avant-première. Le Pentagone qui démasque les forces russes sur le terrain en Libye. Et puis la magie de l'univers de J.K. Rowling opère toujours. La créatrice d'Harry Potter met en ligne un conte très politique pour enfants confinés.
À 8h15 sur Europe 1, Sonia Mabrouk reçoit Cédric O, secrétaire d'État au numérique, promoteur de l'application Stop Covid. Vous dialoguez avec lui ensuite à partir de 8h30, vos questions au 39-21. 8h45, Nicolas Canteloup et sa revue de presse, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Théo Manval.
Tous les élèves retourneront-ils en classe d'ici la fin de l'année scolaire? Le gouvernement doit détailler demain ce qu'il prévoit pour les lycées, mais aussi les écoles et les collèges qui n'ont rouvert qu'en partie dans les zones vertes. Et je vous le disais, beaucoup de parents d'élèves s'impatientent.
Beaucoup veulent retourner travailler. Ils ont été rassurés parce qu'ils ont vu dans les établissements rouverts et ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants n'ont toujours pas de place. Virginie Salmen, la pression s'accroît.
Oui, pour l'instant, seuls 20% des élèves de primaire retournent à l'école et aucun des 3 enfants d'Esther, de la maternelle au CM2. Esther est cadre dans l'industrie du luxe en région parisienne et elle bataille depuis mi-mai.
De semaine en semaine, on nous a fait miroiter de l'école pour les plus grands, puis pour les fratries, puis finalement pas de place. C'est encore plus compliqué à gérer que si on nous avait dit c'est non.
En fait, il faut que le protocole évolue, sinon ça c'est pas possible.
Même sans cela, les délégués de parents d'élèves ont parfois l'impression qu'il reste de la place dans certaines écoles qu'on pourrait utiliser. Cécile Frattaroli, porte-parole de la PEP.
Il y a des écoles qui accueillent jusqu'à 15 enfants, il y en a qui n'en accueillent que 5 par classe, et on comprend pas toujours pourquoi. Il est temps d'avoir un discours plus homogène, en tous les cas plus compréhensible pour les parents, parce qu'on a l'impression que c'est pas toujours vrai en fait, et c'est un peu dommage. Parce que c'est pas le message qui doit être passé. Vous savez, ces gens un peu perplexes et un peu en colère maintenant.
Les professeurs, eux, se sentent pris en étau entre la demande des parents, légitime, disent-ils, le protocole sanitaire et les promesses du gouvernement pour Françoise Popineau du SNUIPP.
C'est un discours assez confus des hommes politiques, en tout premier lieu du ministre de l'Éducation nationale, qui laisse entendre que progressivement on prendra de plus en plus d'enfants, alors que le protocole ne le permet pas.
Et un assouplissement de ce protocole n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour.
Virginie Salmen, dans les hôpitaux, la baisse du nombre de personnes en réanimation se poursuit encore aujourd'hui. On devrait passer bientôt sous la barre des 1500 patients, jamais atteinte cette barre depuis le 22 mars, depuis le début de l'épidémie. 65 879 personnes guéries.
Et outre les écoles, le gouvernement présentera aussi demain le protocole sanitaire pour la réouverture des restaurants à partir du 2 juin.
Uniquement dans les zones vertes. Et vous l'avez entendu dans le journal de 7h, Europe 1 vous le révèle, ce protocole ce matin. Pas de masque obligatoire en cuisine, mais les menus devront être présentés sans contact. Les buffets autorisés uniquement avec un sens unique de circulation. Il devrait y avoir 1 mètre entre chaque table et le personnel devra porter des gants ou se laver les mains toutes les 30 minutes.
Bonjour Marcel Benezet.
Bonjour à vous, bonjour.
Vous êtes le président de la branche Café Bar Brasserie du Groupement National de l'Hôtellerie Restauration. Ce protocole, il a été pensé avec vous. Ça va être facile à mettre en place ?
Alors il a été bien sûr élaboré avec nous, avec toutes les organisations professionnelles. Nous avons travaillé bien sûr en pensant à tout le monde, que ce soit les petits, les grands et les moyens. Notre devoir, c'est d'informer, de former et de prévenir. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous l'avons travaillé et il y a un petit blocage sur les 4 mètres. Nous ne sommes pas d'accord, je pense que... Parce que c'est un projet, encore. Il sera définitivement signé demain, accordé par le ministre demain. Donc, nous sommes encore dans l'attente. Sur quelques points, nous ne sommes pas d'accord. C'est-à-dire, par exemple, le port du masque et le port de la visière pour nos salariés. En salle, c'est une obligation, le port du masque. Les clients, quand ils rentreront en salle, pourront, une fois installés, le poser pour manger, bien sûr, parce que manger avec un masque, c'est pas très pratique. Mais surtout, c'est quand notre client va arriver dans l'établissement, qu'il voit qu'il soit informé et qu'il ait une visibilité sur toutes les procédures qui ont été mises en place.
Marcel Benezet, la distance d'un mètre, a priori, retenue à ce stade entre les tables, ça veut dire, grosso modo, 40% de tables en moins. On reste rentable à ce niveau-là?
Alors c'est un peu ce qui nous préoccupe parce que nous allons diviser notre restaurant avec une perte de 60% ou de 40% de chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est pour ça que vont rester en place le chômage partiel parce qu'on ne pourra pas faire retravailler notre salarié en totalité. Donc il va faire des roulements, ça va être compliqué. C'est vrai que ce protocole, on va le mettre en œuvre parce qu'on sait faire déjà pour la protection de nos clients, de nos salariés, pour notre responsabilité civile. Nous allons mettre tout ça en place, ça sera fait, nous serons prêts, nous sommes déjà prêts parce qu'on a déjà informé nos adhérents depuis quelques temps, on leur a envoyé le protocole avec quelques, bien sûr, le problème, ils veulent nous imposer un plastiglas sur le bar, on n'est pas d'accord parce que vous savez, c'est mal connaître nos métiers, quand vous êtes derrière un comptoir, le serveur il est déjà à plus d'un mètre. Parce que vous avez le bac, la plonge, vous avez le comptoir. Donc déjà, le maître, il est lié.
Et on entend bien que le diable est dans les détails. Merci Marcel Bénézé, représentant des cafés, bars, brasseries au GNI, le groupement national de l'hôtellerie restauration, l'invité en direct ce matin du journal de 8h d'Europe 1.
Et pour éviter une nouvelle flambée des contagions, le gouvernement mise, vous le savez, sur l'application Stop Covid. Elle est examinée au Parlement cet après-midi. Elle pourrait entrer en service dès ce week-end. Clément Le Saffre, vous avez pu la tester pour nous en avant-première. Alors dites-nous, ça ressemble à quoi ?
Eh bien, c'est une application très classique, presque enfantine, hein, je dirais. Dès que vous l'ouvrez, ce que vous voyez, ce sont les informations sur les données recueillies, où elles sont stockées et par qui. Soyons clairs, là, le but, c'est de convaincre les sceptiques. Une fois que vous avez validé ça, il faut autoriser Stop Covid à utiliser le Bluetooth. C'est grâce à cette technologie qu'elle repérera les autres utilisateurs à proximité et donc d'éventuels malades. On arrive alors sur l'écran d'accueil et son unique bouton. J'active Stop Covid. En un clic, l'application se met en marche et il est tout aussi facile de la désactiver. Si vous n'avez pas été malade, et c'est le cas de la majorité des gens, eh bien ça s'arrête là. En revanche, si vous avez eu le coronavirus, il faut se signaler dans un onglet dédié en bas de l'appli. L'onglet « Me déclarer », ça se fait grâce à un code fourni par le médecin ou le laboratoire qui vous a testé. Ainsi, il n'y aura pas de fausse déclaration. Reste maintenant à savoir si l'application fonctionne en conditions réelles, si elle repère bien les cas contacts dans les zones urbaines très peuplées, le métro à Paris par exemple, car c'est là qu'elle sera théoriquement la plus utile.
Et au volet économique, l'inquiétude qui monte sur le risque de surendettement pour de nombreux Français.
Chômage partiel, fin des heures sup, la crise fragilise un peu plus les situations déjà compliquées et les appels auprès des associations sont en train de se multiplier. Jeanne Bergaoui.
On se retrouve vite dans le fond et puis on se dit on va prendre un autre crédit pour pouvoir s'en sortir.
Et encore un autre pour payer celui d'avant. Aujourd'hui, Franck a 25 000 euros de dette, de crédit, un loyer et des charges fixes. Jusqu'ici, cet agent de propreté disposait d'une petite marge de manœuvre en travaillant bien plus que 35 heures. Et puis mi-mars, il y a eu le chômage partiel.
J'ai fait le mauvais calcul de dire je fais autant de salaire avec mes heures supplémentaires, je pouvais m'en sortir comme ça. Et il y a eu ce confinement qui commence à toucher moins et puis vous enfoncez encore plus.
Comme ce père de famille divorcé, de plus en plus de personnes angoissées appellent les permanences de Crésus, un réseau d'associations qui accompagne les personnes en difficulté financière. Souvent des salariés fragilisés par la crise économique, explique Pauline Dujardin, juriste de la Fédération.
Les personnes qui sont sur le fil, qui arrivaient à tenir avec un job supplémentaire, un petit boulot d'auto-entrepreneur, et qui là ont été privés de ces ressources, ce qui les a fait chuter.
Entre l'arrêt des dispositifs d'aide exceptionnelle et la vague de licenciements redoutée, ce réseau d'associations craint, dès septembre, une hausse considérable de ménages en grande difficulté financière.
Et selon l'INSEE, ce matin, le PIB en France pourrait chuter d'environ 20% au deuxième trimestre. L'économie française ne fonctionne aujourd'hui qu'au 4/5 de son niveau d'avant-crise.
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Donald Trump rappelé à l'ordre par Twitter. Et puis, l'armée russe identifiée sur le terrain en Libye. A tout de suite.
Chantal et Alain ont 70 ans. Ils n'ont pas vu leurs petits-enfants depuis le début du confinement. Ils n'ont qu'une envie, les serrer dans leurs bras. Alors, pour profiter de leurs petits-enfants et de toute la famille, Chantal et Alain s'adaptent. Ils font très attention à respecter les mesures barrières.
Le virus est toujours là et 9 personnes sur 10 qui meurent d'une infection à coronavirus ont plus de 65 ans. Restons prudents. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Découvrez La vie est un roman de Guillaume Musso. Un jour d'avril, la petite Carrie, 3 ans, fille de la célèbre romancière Flora Conway, a disparu lors d'une partie de cache-cache chez elle à Brooklyn. L'enquête de police n'a rien donné. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, un écrivain au cœur broyé détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer. La vie est un roman, une histoire étourdissante de Guillaume Musso, aux éditions Calman-Lévy.
Bonne nouvelle, on réouvre.
Ah,
Oui, mais attends, pour bien repartir, il faut communiquer auprès de nos clients et puis développer la livraison à domicile.
Oui, tout ça, je ne l'oublie pas. Et La Poste non plus ne nous oublie pas. Avec les Réactifs Pack, La Poste nous accompagne, nous les pros, pour nous relancer.
Ça, c'est une bonne nouvelle pour notre chiffre d'affaires.
La Poste Solutions Business s'active pour la reprise des pros et lance les Réactifs Pack. Découvrez toutes les solutions côté pro au 3634 à La Poste ou sur laposte.fr/pro.
Vos pieds sont secs et rêches.
Vite, la solution, c'est le baume Hydra Défense Aquiléine. Grâce à ses extraits de soie, il est agréable comme une crème de beauté et incomparable pour retrouver vite des pieds doux comme de la soie.
Pieds secs, déshydratation sévère, le baume Hydra Défense Aquiléine procure une hydratation 24 heures non-stop. Dès les premiers jours, les rugosités s'estompent et la peau est visiblement plus lisse.
Baume Hydra Défense Aquiléine en pharmacie et espace santé.
Aquiléine,
nous, c'est le pied.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. Mathieu Beyer, Théo Manval.
C'est son réseau social favori, mais Donald Trump est très fâché contre Twitter ce matin. Pour la toute première fois, la plateforme a signalé comme trompeur deux de ses tweets. Risque d'intox sur la sécurité du vote par correspondance aux États-Unis. Donald Trump accuse Twitter d'interférer dans la présidentielle américaine en cours et de brider, je cite, la liberté d'expression.
Les États-Unis qui, dans un tout autre dossier, accusent la Russie d'avoir envoyé des avions de combat en Libye.
Photo à l'appui, le Pentagone bat en brèche les affirmations de Moscou qui a toujours nié être impliqué sur place en soutien au maréchal Haftar qui lutte lui-même depuis des mois contre le gouvernement installé à Tripoli. Vincent Hervouette.
Ce sont de bons clichés aériens, on distingue les avions et la piste au milieu du désert, on dirait un bac à sable. Les Américains aiment la guerre vue d'en haut et les photos ont fait le tour du web. Le Pentagone est content de montrer que rien ne lui échappe. D'après les légendes, il y a deux sortes d'avions de combat. D'abord des MiG-29 et des Sukhoi 24, de vieux coucou. Les Américains ont reconstitué leur plan de vol, ils ont décollé de Russie, ont fait un arrêt pipi en Iran et ont été repeints en Syrie avant de gagner la Libye. Et puis, trois chasseurs bombardiers de dernière génération, Sukhoi 34 et 35, qui ont protégé la petite escadrille dans sa traversée de la Méditerranée. Pour Washington, c'est la preuve de l'implication de Moscou dans la guerre en Libye, car il faut un État pour opérer ces appareils de quatrième génération.
Alors que Moscou prétend ne pas intervenir en Libye.
Mais personne n'est dupe, les combattants russes sont des mercenaires d'une société privée, le groupe Wagner, mais c'est bien Vladimir Poutine qui tient le manche à balai. Selon les généraux américains, si la Russie s'installe, cela créera de l'insécurité sur le flanc sud de l'Europe. Il raisonne avec 40 ans de retard, ce qui menace l'Europe c'est le camp d'en face, les suppôts de Ben Laden qui guerroient pour la Turquie et les milices de Tripoli qui font du trafic de migrants.
Le regard international de Vincent Hervouette tous les matins dans le journal de 8h.
Enfin, un peu de lecture pour les enfants qui ne retrouveront pas tout de suite le chemin de l'école. On en parlait tout à l'heure.
Un peu de magie aussi. J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, vient de publier un conte pour enfants sur Internet. Ça s'appelle L'Icabog, une histoire écrite il y a 10 ans mais qui dormait jusqu'ici au grenier, retravaillée pendant le confinement. Les deux premiers chapitres sont disponibles en ligne. Pauline Jacquot.
C'est un conte de fées politiques à propos de la vérité et de l'abus de pouvoir. Il était une fois un petit pays appelé Cornucopia. Les premières lignes du conte nous emmènent dans un royaume riche, paisible, où les rivières sont étincelantes, les pâtisseries fabuleuses et la nourriture abondante. Les hommes vivent heureux, sauf au nord du pays, le territoire des Marchlands, ces hommes pauvres et sales dont les autres se moquent. C'est aussi l'antre d'un monstre, l'Icabog, titre du conte, tantôt serpent, loup ou dragon, qui mange, selon la légende, les enfants et les moutons. D'emblée, les inégalités apparaissent. Conte de fées politiques qui mêle les destins d'un roi, d'un petit garçon et d'une créature a priori maléfique. L'auteur a choisi de publier sur son site internet tous les jours un ou deux chapitres jusqu'au 10 juillet. J.K. Rowling a dit avoir eu l'idée de ce conte il y a 10 ans. Les thématiques, raconte-t-elle, peuvent donc s'appliquer à n'importe quelle période et à n'importe quel pays.
Un peu de lecture. C'était Pauline Jacquot pour Europe 1.
Mais oui, pour les enfants qui sont encore confinés.
Oui,
pour les autres aussi.
Pour les parents nostalgiques d'Harry Potter, par exemple. Je dis ça au hasard.
Théo Manval peut être fan d'Harry Potter. Vous savez qu'à chaque fois, ça passe encore à la télé. Pendant le confinement, on en a eu un épisode. À chaque fois, ça marche très fort. Tiens, pour les enfants qui sont encore confinés, d'autres solutions et du très concret. Ce sera à la mi-journée aujourd'hui, entre 13h et 14h, le dossier du jour de La France Bouge. Quelle continuité pédagogique pour les élèves? Quels outils pour l'assurer? Vous restez tout au long de la journée à l'écoute d'Europe 1. Merci Théo Manval.